These are the instructions for the Paper 2 Listening Comprehension examination paper. Write your session number in the boxes on the examination paper. Do not open the examination paper until instructed to do so. Answer all questions. Answers must be written within the answer boxes provided. Answers may be written at any time during the examination. There will be three audio texts. All answers must be based on the appropriate audio texts. There will be 4 minutes of reading time at the start of each audio text. Each audio text will be played twice. There will be a 2-minute pause before each audio text is repeated. The maximum mark for this examination paper is 25 marks. The start and end of each audio text will be indicated by this sound. The end of the examination will be indicated by this sound.
Voici les instructions pour la partie de l'épreuve 2 portant sur la compréhension orale. Écrivez votre numéro de session dans les cases se trouvant sur l'épreuve d'examen. N'ouvrez pas l'épreuve avant d'y être autorisé. Répondez à toutes les questions. Rédigez vos réponses dans les cases prévues à cet effet. Les réponses peuvent être rédigées à tout moment pendant l'examen. Les textes audio seront au nombre de 3. Toutes les réponses doivent s'appuyer sur les textes audio correspondants. 4 minutes de lecture seront accordées au début de chaque texte audio. Chaque texte audio sera lu 2 fois. Une pause de 2 minutes sera observée entre les lectures de chaque texte audio. Le nombre maximum de points pour cette épreuve d'examen est de 25 points. Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par le signal sonore suivant. La fin de l'examen sera indiquée par le signal sonore suivant.
Estas son las instrucciones para la parte de comprensión auditiva de la prueba 2. Escriba su número de convocatoria en las casillas de la prueba de examen. No abra la prueba hasta que se lo autoricen. Conteste todas las preguntas. Escriba sus respuestas en las casillas provistas a tal efecto. Escriba sus respuestas en cualquier momento del examen. Habrá 3 textos de audio. Todas las respuestas deben basarse en los textos de audio adecuados. Se concederán 4 minutos de lectura al comienzo de cada texto de audio. Cada texto de audio se reproducirá 2 veces. Habrá una pausa de 2 minutos antes de que se repita cada texto de audio. La puntuación máxima para esta prueba de examen es 25 puntos. Al comienzo y al final de cada texto de audio se escuchará este pitido de aviso. Al final del examen se escuchará este pitido de aviso.
Texte A. Maintenant, vous avez 4 minutes pour lire les questions. Texte A. Vous écoutez une interview radio d'une jeune femme qui a une profession assez originale.
Notre prochaine invitée a une occupation hospitalière plutôt inhabituelle. Béatrice, bonjour.
Bonjour.
Alors Béatrice, vous travaillez dans les services enfants de certains hôpitaux pour une association qui s'appelle le Rire Médecin.
Oui, effectivement. Le Rire Médecin envoie des clowns dans une cinquantaine de services pédiatriques en France.
Des clowns ?
Oui, c'est cela, pour distraire les enfants, pour rendre la maladie plus supportable, surtout quand il s'agit d'une maladie de longue durée, mais pas uniquement.
Vous faites cela comme bénévole ?
Ah non, non. Je travaille 2 jours par semaine pour le Rire Médecin. Et je tiens à préciser que l'association ne fait appel qu'à des comédiens clowns professionnels.
Alors Béatrice, donnez-nous une idée un peu précise de ce que vous faites dans les hôpitaux.
Notre but est de faire jouer les enfants et de les faire rire, et cela malgré leur hospitalisation. Par exemple, il y a très souvent de la chanson, du rap ou autre.
Ah oui ?
Mais nous racontons également pas mal d'histoires. Nous faisons des jeux de mime, de la magie.
Ça doit bien les amuser.
Oui, et en plus, ça leur permet de mieux supporter leur hospitalisation et de porter un regard différent sur leur maladie. Ce qu'on essaye de faire, surtout, c'est de leur rappeler qu'ils sont peut-être malades, mais qu'ils sont avant tout des enfants.
Les parents aussi doivent apprécier, non ?
Tout à fait, car vous savez, les parents aussi vivent parfois mal l'hospitalisation d'un enfant. Ils peuvent s'enfermer dans le cercle de la maladie et finir dans la dépression.
Et oui, parce que les parents, eux aussi, ont besoin de rire.
Bien sûr, et de montrer à leurs enfants qu'ils savent toujours rire. D'ailleurs, depuis 2015, l'association organise des ateliers pour les parents afin de leur apprendre à accompagner leurs enfants par le jeu, le mime, la chanson pendant leur maladie.
En plus des gens comme vous, j'imagine que l'association fait également appel au bénévolat ?
Oui, bien sûr, comme toutes les associations à but non lucratif, que ce soit pour travailler dans les bureaux de l'association ou pour participer à divers événements.
Des événements de quel genre ?
Ça peut être des collectes d'argent dans la rue, des ventes de produits aux couleurs et au profit de Rire Médecin lors de festivals. L'association a des comités locaux très dynamiques.
Et je suis sûr que certains de nos auditeurs ne manqueront pas d'être intéressés. Tout renseignement sur le site du Rire Médecin ?
Absolument.
Notre prochaine invitée a une occupation hospitalière plutôt inhabituelle. Béatrice, bonjour.
Bonjour.
Alors Béatrice, vous travaillez dans les services enfants de certains hôpitaux pour une association qui s'appelle le Rire Médecin.
Oui, effectivement. Le Rire Médecin envoie des clowns dans une cinquantaine de services pédiatriques en France.
Des clowns ?
Oui, c'est cela, pour distraire les enfants, pour rendre la maladie plus supportable, surtout quand il s'agit d'une maladie de longue durée, mais pas uniquement.
Vous faites cela comme bénévole ?
Ah non, non. Je travaille 2 jours par semaine pour le Rire Médecin. Et je tiens à préciser que l'association ne fait appel qu'à des comédiens clowns professionnels.
Alors Béatrice, donnez-nous une idée un peu précise de ce que vous faites dans les hôpitaux.
Notre but est de faire jouer les enfants et de les faire rire, et cela malgré leur hospitalisation. Par exemple, il y a très souvent de la chanson, du rap ou autre.
Ah oui ?
Mais nous racontons également pas mal d'histoires. Nous faisons des jeux de mime, de la magie.
Ça doit bien les amuser.
Oui, et en plus, ça leur permet de mieux supporter leur hospitalisation et de porter un regard différent sur leur maladie. Ce qu'on essaye de faire, surtout, c'est de leur rappeler qu'ils sont peut-être malades, mais qu'ils sont avant tout des enfants.
Les parents aussi doivent apprécier, non ?
Tout à fait, car vous savez, les parents aussi vivent parfois mal l'hospitalisation d'un enfant. Ils peuvent s'enfermer dans le cercle de la maladie et finir dans la dépression.
Et oui, parce que les parents, eux aussi, ont besoin de rire.
Bien sûr, et de montrer à leurs enfants qu'ils savent toujours rire. D'ailleurs, depuis 2015, l'association organise des ateliers pour les parents afin de leur apprendre à accompagner leurs enfants par le jeu, le mime, la chanson pendant leur maladie.
En plus des gens comme vous, j'imagine que l'association fait également appel au bénévolat ?
Oui, bien sûr, comme toutes les associations à but non lucratif, que ce soit pour travailler dans les bureaux de l'association ou pour participer à divers événements.
Des événements de quel genre ?
Ça peut être des collectes d'argent dans la rue, des ventes de produits aux couleurs et au profit de Rire Médecin lors de festivals. L'association a des comités locaux très dynamiques.
Et je suis sûr que certains de nos auditeurs ne manqueront pas d'être intéressés. Tout renseignement sur le site du Rire Médecin ?
Absolument.
Texte B. Maintenant, vous avez 4 minutes pour lire les questions. Texte B. Vous écoutez deux jeunes, Karen et son ami Youssef, qui préparent une présentation dans une bibliothèque pour une conférence sur leur génération, la génération Z. Bon, Youssef, comme introduction, on explique d'abord que la génération Z, c'est notre génération.
Une génération qui est née depuis 1995-96. Oui, ça me va. C'est important en intro.
Et toujours en introduction, on explique que la génération Z remplace la génération Y. Et on résume les caractéristiques de la génération Y.
Karen, tu sais, en intro, je préférerais qu'on se concentre vraiment sur notre génération.
Tu crois ?
Ah oui, complètement. Bon, et après, comme point clé, qu'est-ce qu'on va développer ?
Alors, déjà, je crois que notre signe le plus distinctif, c'est qu'on est une génération qui a grandi avec la technologie, depuis la naissance.
Oui, la technologie, les réseaux sociaux, et surtout, il faut qu'on insiste sur le fait que notre génération utilise ça constamment.
Donc, on explique qu'on maîtrise parfaitement les outils informatiques, à l'inverse de la génération précédente. Et...
Attends, j'enregistre.
Et en fait, non seulement on utilise toutes ces technologies depuis la naissance, mais on ne pourrait pas imaginer de vivre sans.
Bon. Et en deuxième point, on devrait peut-être faire un lien avec les médias, non ?
Tu veux dire sur notre grosse consommation de médias ? Ouais, j'y avais pensé.
Oui, oui. C'est... Je pensais aussi au fait que c'est avant tout en ligne qu'on consomme les médias. Les infos et tout le reste.
Ah, je te suis. Et on pourrait donner des exemples comme les blogs, les sites de partage de vidéos. Ouais, ça tient.
Bon, ensuite, comme deuxième grand thème, moi je proposerai le travail. Par exemple, avec la disparition assez rapide des barrières entre vie personnelle et vie professionnelle.
Ah ouais, tout à fait. Et en plus, sur le thème du travail, on pourrait dire que les 5 jours hebdomadaires, ça n'existe plus beaucoup, hein. Et que les journées 9h-17h sont en voie de disparition.
Ouais, donc on montre que les heures de travail sont vraiment fluides maintenant. Voilà.
Et puis, probablement en raison du système éducatif, c'est travailler par projet, en équipe qui nous intéresse et qui nous motive.
On avance, hein ?
Ouais, ça prend forme.
Toujours sur nos préférences travail, est-ce qu'on devrait parler des conséquences au niveau des entreprises ?
Les conséquences de quoi ?
Ben, dans les entreprises, il nous faut donner une certaine autonomie. Parce que quand on travaille sur un projet, il faut pouvoir s'organiser à sa façon. Expérimenter.
Ah ouais.
Parce que si la hiérarchie insiste sur une structure rigide, ça ne peut pas marcher. Donc les entreprises doivent s'adapter à notre style.
À notre style de travail. Ouais, c'est bon. Bon, Youssef, comme introduction, on explique d'abord que la génération Z, c'est notre génération.
Une génération qui est née depuis 1995-96. Oui, ça me va. C'est important en intro.
Et toujours en introduction, on explique que la génération Z remplace la génération Y. Et on résume les caractéristiques de la génération Y.
Karen, tu sais, en intro, je préférerais qu'on se concentre vraiment sur notre génération.
Tu crois ?
Ah oui, complètement. Bon, et après, comme point clé, qu'est-ce qu'on va développer ?
Alors, déjà, je crois que notre signe le plus distinctif, c'est qu'on est une génération qui a grandi avec la technologie, depuis la naissance.
Oui, la technologie, les réseaux sociaux, et surtout, il faut qu'on insiste sur le fait que notre génération utilise ça constamment.
Donc, on explique qu'on maîtrise parfaitement les outils informatiques, à l'inverse de la génération précédente. Et...
Attends, j'enregistre.
Et en fait, non seulement on utilise toutes ces technologies depuis la naissance, mais on ne pourrait pas imaginer de vivre sans.
Bon, et en deuxième point, on devrait peut-être faire un lien avec les médias, non ?
Tu veux dire sur notre grosse consommation de médias ? Ouais, j'y avais pensé.
Oui, oui. C'est... Je pensais aussi au fait que c'est avant tout en ligne qu'on consomme les médias. Les infos et tout le reste.
Ah, je te suis. Et on pourrait donner des exemples comme les blogs, les sites de partage de vidéos. Ouais, ça tient.
Bon, ensuite, comme deuxième grand thème, moi je proposerai le travail. Par exemple, avec la disparition assez rapide des barrières entre vie personnelle et vie professionnelle.
Ah ouais, tout à fait. Et en plus, sur le thème du travail, on pourrait dire que les 5 jours hebdomadaires, ça n'existe plus beaucoup, hein. Et que les journées 9h-17h sont en voie de disparition.
Ouais, donc on montre que les heures de travail sont vraiment fluides maintenant. Voilà.
Et puis, probablement en raison du système éducatif, c'est travailler par projet, en équipe qui nous intéresse et qui nous motive.
On avance, hein ?
Ouais, ouais, ça prend forme.
Toujours sur nos préférences travail. Est-ce qu'on devrait parler des conséquences au niveau des entreprises ?
Les conséquences de quoi ?
Ben, dans les entreprises, il nous faut donner une certaine autonomie. Parce que quand on travaille sur un projet, il faut pouvoir s'organiser à sa façon, expérimenter.
Ah ouais, ouais.
Parce que si la hiérarchie insiste sur une structure rigide, ça ne peut pas marcher. Donc les entreprises doivent s'adapter à notre style.
À notre style de travail. Ouais, c'est bon. Texte C. Maintenant, vous avez 4 minutes pour lire les questions. Texte C. Vous écoutez un reportage radio d'un envoyé spécial au sujet de la mangrove sur l'île de Mayotte, département d'outre-mer français situé dans l'océan Indien.
La mangrove de Mayotte. Cette forêt tropicale fascinante en bord de mer, où les arbres ont les pieds dans l'eau. Cette mangrove est une architecture végétale qui abrite une biodiversité marine impressionnante. Une mangrove en bonne santé joue un rôle écologique fondamental. Ici, à Mayotte, elle protège la côte contre l'érosion et les inondations, Elles forment une barrière naturelle entre terre et mer. Les poissons, les crustacés, contribuent à l'alimentation de la population locale. Les arbres aident à protéger certaines espèces d'oiseaux qui viennent pour s'y nourrir ou s'y reproduire. Et ici, bien sûr, la mangrove joue aussi un rôle très appréciable dans le développement touristique de l'île. Mais aujourd'hui, hélas, la mangrove de Mayotte est un trésor menacé, et menacé par l'homme. Avec la pression démographique, avec l'urbanisation galopante, avec le déboisement au profit de l'agriculture, la mangrove a maintenant des difficultés à assumer son rôle protecteur. Et puis, il y a aussi tout ce plastique et autres déchets que l'on trouve trop souvent, hélas, dans les rues de Mayotte. Et ces déchets finissent dans la mangrove durant les fortes pluies. On reprendra ce reportage après cette petite pause publicitaire. Alors agir, oui, il le faut, et agir vite. C'est pourquoi la direction de l'environnement de Mayotte, à l'aide de spécialistes, a identifié comme priorité de restaurer la mangrove. Pour atteindre son objectif, Mayotte essaie de convaincre la population d'adopter des gestes plus respectueux envers l'environnement. Et ce qui est intéressant, c'est que les responsables du projet cherchent à impliquer tous les groupes sociaux, y compris les jeunes délinquants et les immigrés en situation irrégulière. C'est une décision très ambitieuse quand on sait que 40% de la population de Mayotte est clandestine. Pour commencer, en ce qui concerne les déchets, les responsables du projet avaient organisé une première action nettoyage de la mangrove par les habitants de l'île. En quelques heures, 300 sacs de déchets avaient été collectés. Depuis, les initiatives se multiplient. Par exemple, on s'inspire d'actions menées au Sénégal et au Togo pour transformer certains déchets en matériaux de construction. Peu à peu, la prise de conscience évolue et les actions se multiplient avec l'espoir, le grand espoir qu'il ne soit pas trop tard pour sauver la mangrove. Même les enfants participent à ces actions, et c'est quelque chose quand on sait que la moitié de la population a moins de 18 ans. Certains élèves d'école primaire, par exemple, participent à des stages sur l'écologie locale. Et après cette initiation, ces enfants partagent leurs nouvelles connaissances avec d'autres élèves. De plus, ils s'impliquent vraiment sur le terrain en plantant de nouveaux arbres. Petits arbres deviendront grands ? Espérons-le. La mangrove de Mayotte, cette forêt tropicale fascinante en bord de mer où les arbres ont les pieds dans l'eau. Cette mangrove est une architecture végétale qui abrite une biodiversité marine impressionnante. Une mangrove en bonne santé joue un rôle écologique fondamental. Ici, à Mayotte, elle protège la côte contre l'érosion et les inondations. Elle forme une barrière naturelle entre terre et mer. Les poissons, les crustacés, contribuent à l'alimentation de la population locale. Les arbres aident à protéger certaines espèces d'oiseaux qui viennent pour s'y nourrir ou s'y reproduire. Et ici, bien sûr, la mangrove joue aussi un rôle très appréciable dans le développement touristique de l'île. Mais aujourd'hui, hélas, la mangrove de Mayotte est un trésor menacé, et menacé par l'homme. Avec la pression démographique, avec l'urbanisation galopante, avec le déboisement au profit de l'agriculture, la mangrove a maintenant des difficultés à assumer son rôle protecteur. Et puis, il y a aussi tout ce plastique et autres déchets que l'on trouve trop souvent, hélas, dans les rues de Mayotte. Et ces déchets finissent dans la mangrove durant les fortes pluies. On reprendra ce reportage après cette petite pause publicitaire. Alors agir, oui, il le faut, et agir vite. C'est pourquoi la direction de l'environnement de Mayotte, à l'aide de spécialistes, a identifié comme priorité de restaurer la mangrove. Pour atteindre son objectif, Mayotte essaie de convaincre la population d'adopter des gestes plus respectueux envers l'environnement. Et ce qui est intéressant, c'est que les responsables du projet cherchent à impliquer tous les groupes sociaux, y compris les jeunes délinquants et les immigrés en situation irrégulière. C'est une décision très ambitieuse quand on sait que 40% de la population de Mayotte est clandestine. Pour commencer, en ce qui concerne les déchets, les responsables du projet avaient organisé une première action nettoyage de la mangrove par les habitants de l'île. En quelques heures, 300 sacs de déchets avaient été collectés. Depuis, les initiatives se multiplient. Par exemple, on s'inspire d'actions menées au Sénégal et au Togo pour transformer certains déchets en matériaux de construction. Peu à peu, la prise de conscience évolue et les actions se multiplient avec l'espoir, le grand espoir qu'il ne soit pas trop tard pour sauver la mangrove. Même les enfants participent à ces actions, et c'est quelque chose quand on sait que la moitié de la population a moins de 18 ans. Certains élèves d'école primaire, par exemple, participent à des stages sur l'écologie locale. Et après cette initiation, ces enfants partagent leurs nouvelles connaissances avec d'autres élèves. De plus, ils s'impliquent vraiment sur le terrain en plantant de nouveaux arbres. Petits arbres deviendront grands ? Espérons-le.